Radio Okapi. Le journal Noëlla Luzitukabambi à la présentation.
Le gouvernement congolais dit prendre acte des décisions adoptées à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement réunis le 8 février en Tanzanie au sommet EAC-SADC. Le gouvernement de la RDC l'affirme dans un communiqué de presse publié hier par le ministère de la Communication et Médias. Les parents sont invités à envoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi 10 février, environ deux semaines après la suspension des enseignements suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans et autour de la ville de Goma au Nord Kivu. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 affirme que plusieurs infrastructures ayant subi des dégâts, la reprise va se faire progressivement. Luc Bouaweza est l'invité de ce journal. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 va parler des conditions de reprise des cours dans les écoles situées dans et autour de la ville de Goma. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la tenue le 8 février à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie du sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, sommet consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans un communiqué de presse publié hier dimanche par le ministère de la Communication et Médias et dont une copie est parvenue à Radio Okapi, Kinshasa prend acte des décisions adoptées à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement qui ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC et ont convenu de l'élaboration et la mise en œuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire congolais. L'essentiel de ce communiqué avec Jude Mister Bilanda.
Cette décision marque une avancée décisive vers la fin de toute présence militaire non autorisée, notamment celle des troupes rwandaises et de leurs supplétifs, poursuit les communiqués. Le gouvernement prend acte de l'adoption des mesures immédiates face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et appelle à leur mise en œuvre sans délai pour permettre, d'une part, la mise en œuvre du plan harmonisé CONOPS, incluant la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement de ses forces du territoire congolais en accord avec les processus de Luanda. Et d'autre part, la tenue des consultations prévues dans le cadre du processus de Nairobi impliquant les acteurs non étatiques poursuit les communiqués. Le gouvernement accueille favorablement la discussion des chefs d'État et des gouvernements sur la possibilité de renforcer la coordination entre les processus de Luanda et de Nairobi sous l'égide de l'Union africaine et les communiqués de conclure que la République démocratique du Congo salue la clarté des décisions adoptées et rejette toute tentative de détourner l'attention des véritables causes du conflit et rappelle que la crise actuelle est avant tout une atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité et non une question ethnique.
Vous l'avez suivi, plusieurs mesures ont donc été prises par les chefs d'État et de gouvernement durant le sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le week-end. Mais quelles sont ces mesures prises pour tenter de mettre fin à la guerre qui secoue la partie est de la RDC? Askin Zigbiatoro revient sur les grandes lignes des décisions, dont celles susceptibles d'être réalisées à court et à moyen terme.
En toute urgence, le chef d'État de la SADC et EAC ont lancé un appel à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Ils ont demandé le rétablissement de services publics essentiels et de voies d'approvisionnement en denrées alimentaires afin que soit assurée l'aide humanitaire. En termes clairs, il est demandé l'ouverture de routes Goma-Sake-Bukavu, Goma-Kibumba-Rumangabo-Kalingera-Ruchuru-Bunagana et afin Goma-Kiwandia-Rundi-Kanyabayon jusqu'à Lubero. Autre urgence, c'est aussi la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma. Ce sommet conjoint a donc chargé le chef d'état-major de l'EAC et de la SADC de se réunir à court terme, c'est-à-dire dans un délai de 5 jours, pour fournir des directives techniques sur l'instauration d'un cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates sans condition. À moyen terme, les chefs d'état-major devront, dans leur mission, élaborer un dispositif de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. Ceci dans l'intérêt de faciliter l'acheminement, par exemple, d'une assistance humanitaire et la sécurisation des voies de navigation sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu.
Sur place au Nord Kivu, en raison de la situation sécuritaire précaire, les institutions publiques et toute l'administration de la province sont provisoirement transférées de Goma à Beni, en attendant la reconquête des zones occupées par le 1-23. Cette décision annoncée dans une note circulaire signée le 1er février par le nouveau gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule-Evariste, s'adresse aux chefs des administrations publiques, aux dirigeants d'entreprises publiques et privées, aux membres des corporations des travailleurs et employeurs, aux ONG locales, nationales et internationales, ainsi qu'aux agences du système des Nations Unies et à la MONUSCO. Pendant ce temps, les agriculteurs du territoire de Nyiragongo déclarent ne pas pouvoir accéder à leurs champs en raison de la présence des corps en décomposition sur les routes et dans les champs de cette partie du Nord Kivu. Cette situation représente une grave menace pour la santé publique, alerte plusieurs acteurs locaux. Ces derniers ont contacté Radio Okapi ce week-end pour lancer un message à la Croix-Rouge et aux humanitaires qu'ils interviennent de toute urgence afin d'évacuer ces corps et d'assainir la zone. Sifamagoro.
Les faits s'observaient plus dans différents villages et groupements Kibati, Buvira et Rusayu. Alors que la population tente d'accéder aux champs à la recherche de la nourriture, profitant de cette accalmie relative qui s'observe depuis l'occupation, celle-ci se heurte à cette difficulté. D'après nos sources, des affrontements intenses à l'arme lourde ont été enregistrés dans ces villages avant l'entrée des rebelles dans la ville de Goma, ce qui justifie la présence de plusieurs cadavres des militaires et civils confondus qui traînent encore çà et là et qui fait craindre des risques des épidémies. En outre, notre source évoque la crainte d'engins non explosés, mais aussi des armes abandonnées qui sont visibles dans plusieurs villages. L'urgence s'impose pour que des interventions de déminage et d'assainissement soient organisées en territoire de Nyiragongo en général, précisent nos sources.
Et puis, les populations du groupement de Basso à Madiwe, dans le territoire de Beni, toujours au Nord Kivu, affirment être fatiguées de l'insécurité et demandent à l'armée d'intervenir pour démanteler le groupe armé Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, coupable de nombreuses exactions dans leur entité. Et pour faire entendre leur voix, la société civile de Basso à Madiwe a décrété dès ce lundi des journées sans activité, une manière d'attirer l'attention des autorités sur cette insécurité qui a déjà coûté la vie à de nombreux civils. De son côté, l'armée rassure. Le point avec Guylaine Kassassia de Pibéni.
Depuis plusieurs mois, affirme de sources sur place, la vie est devenue un enfer dans le groupement de Basso à Madiwe à cause des atrocités commises par l'UPLC, une milice locale. Vendredi dernier, par exemple, alors qu'ils se rendaient à un enterrement, 5 civils ont été tués par ces miliciens qui ont tiré à bout portant sur eux, selon des sources sur place. 4 autres personnes ont été blessées lors de cette fusillade, ajoute les mêmes sources. Excédée par la présence de cette milice dans les milieux, la société civile vient de décréter des journées sans activité jusqu'à ce que cette milice soit démantelée. Justin Palugo Kavalami est le président de la société civile du groupement des Basso à Madiwe.
La population de Madiwe demande que les autorités compétentes puissent venir discuter avec les éléments de UPLC, que ces éléments puissent libérer leur position et que ces positions soient occupées par les forces loyalistes. La population veut que le lundi n'y aura pas aucune activité jusqu'à ce que la population puisse trouver la vraie réponse à leurs réclamations.
Contactez le colonel Makazu Kai, le porte-parole des opérations Sokola 1 dans les Grands Nord Kivu, demande à la société civile de Basso à Madiwe de remonter cette alerte au commandement des opérations Sokola 1 en vue de trouver une solution durable. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Environ 2 semaines après la suspension des enseignements suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans et autour de la ville de Goma, les parents sont appelés à envoyer leurs enfants à l'école à partir de ce lundi 10 février. Dans son message diffusé le week-end, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 affirme que la reprise va se faire après des échanges avec la haute hiérarchie de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté pour garantir l'instruction des enfants. Chris Mukonde.
Dans son message, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Luc Gbaweza, précise que les activités scolaires vont reprendre lundi 10 février 2025 dans les écoles primaires et secondaires de la ville de Goma et les bureaux gestionnaires qui n'ont pas été détruits lors des combats. Quant aux écoles touchées ou affectées par la crise, Les chefs d'établissement devront se réunir avec les comités des parents, conseils de gestion, pour évaluer les dégâts enregistrés et envisager des réparations urgentes pour permettre aux écoliers et élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Pour les écoles complètement détruites, à l'instar de l'école du cinquantenaire au quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, la reprise se fera de manière progressive, eu égard aux travaux de réfection ou de réhabilitation, le cas échéant. Autre disposition, les séances de double vacation sont strictement interdites. Les heures de sortie des classes ne devront dépasser celles requises par le programme national, souligne le message. Le directeur de la province éducationnelle Nord-Kivu 1 invite les gestionnaires, les inspecteurs d'enseignement, les chefs d'établissement scolaires, les enseignants et les parents d'élèves à collaborer étroitement pour la réussite de cette année scolaire.
Pour un Congo meilleur dans l'avenir, la République démocratique du Congo a besoin des citoyens nouveaux dans le secteur éducatif. Déclaration de l'inspecteur principal de la province éducationnelle du Congo central 1 devant les enseignants et finalistes du secondaire du lycée Vuvu Kieto de la ville de Matadi. Il s'est agi de la sensibilisation au respect du plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nana Plurich Mambo.
Un Congo meilleur dans l'avenir nécessite l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des citoyens nouveaux. L'IPP du Congo central 1 l'a souligné dans son message aux enseignants et à plus d'une centaine d'élèves finalistes du secondaire du lycée Vuvu Kieto. Jean-Pierre Kokumbo.
Le gouvernement a besoin de citoyens nouveaux. C'est pourquoi la dénomination du ministère même a changé. Nouvelle citoyenneté, un type nouveau. Nouveau, c'est-à-dire qui n'est pas prêt à accepter les antivaleurs. Pour que même si nous, les aînés, nous avions échoué, eh bien, que nos enfants puissent faire l'honneur de ce pays.
Pour mieux évaluer les niveaux des élèves, ces derniers exhortent les enseignants de composer les épreuves sur base des matières dispensées.
Qu'on ne distribue pas de points gratuits aux élèves, qu'on ne fasse pas des E13 erronés, mais que chacun fasse un travail de qualité. Donc, évaluer signifie amener les élèves à appliquer ce que le professeur leur a appris pendant les heures de cours.
Pour une relève conséquente, l'inspecteur principal provincial Jean-Pierre Kokumbo appelle les apprenants à travailler d'arrache-pied.
La part des élèves, nous venons les sensibiliser qu'ils soient disciplinés d'abord. Parce que nous cherchons à former des patriotes. Nous ne cherchons pas à former des enfants qui vont signer un contrat contre leur pays. Ils doivent être assidus dans le travail.
Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
La ville de Kisangani est privée d'électricité depuis hier dimanche matin. Une panne est survenue au groupe numéro 2 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, l'unique groupe opérationnel sur les trois que compte cette centrale, les deux autres étant tombés en panne depuis bien longtemps. Selon le chef des divisions de production et transport de la SNEL Kisangani, seuls les sites stratégiques seront alimentés en énergie électrique issue des groupes électrogènes. Pour Jean-Claude Olianja, les travaux vont durer 5 jours, soit de dimanche 9 à jeudi 13 février courant. Néanmoins, précise-t-il, toutes les dispositions sont prises pour réduire le délai des travaux au strict minimum. Il explique les causes de l'arrêt du groupe numéro 2 dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Le groupe numéro 2 a un problème de percement d'un radiateur que nous appelons ici réfrigérant, qui refroidit l'huile qui alimente la pivoterie et les paliers supérieurs de la machine. Cet organe-là, quand ça perce, parce que cet organe-là baigne dans l'huile. L'eau circule à l'intérieur de cet organe qui baigne dans l'huile pour refroidir l'huile qui s'échauffe à cause des frottements métal-métal, tout ça. Et quand cet organe-là se perce, l'eau qui circule à l'intérieur entre dans le bain d'huile. Et c'est très mauvais pour les endroits de surface où il y a un système de lubrification. Là où il y a frottement, dans cette surface-là, il y a un film d'huile qui pénètre dedans pour créer une lubrification. Mais cette huile-là doit être propre pour un meilleur glissement. Si cette huile-là est polluée, c'est-à-dire que si ça contient de l'eau, ça peut créer un mauvais frottement et quand ça grippe, c'est une longue indisponibilité. Et ça, c'est ce que nous voulons éviter.
Actualité internationale.
Les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse commune près d'un centre de détention illégale dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est de la Libye, a indiqué hier le bureau du procureur général libyen. Les corps ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans ce centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains où étaient séquestrés 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Une enquête a permis d'identifier l'existence d'une bande dont les membres séquestraient les migrants irréguliers, les torturaient et les soumettaient à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Trois personnes ont été arrêtées, un Libyen et deux étrangers. Fin janvier, le bureau du procureur général basé à Tripoli a ordonné l'incarcération de deux membres d'une bande criminelle accusée de torture à l'encontre de 263 migrants originaires d'Afrique en situation irrégulière dans le but d'extorquer des rançons.
L'invité.
Luc Gbaweza est l'invité de ce journal. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 annonce que les activités scolaires reprennent ce lundi dans les écoles primaires et secondaires de Goma, dont les infrastructures n'ont pas été gravement affectées par les récents affrontements armés. Luc Gbaweza s'entretient avec Chris Mukande.
Bonjour Monsieur Luc Gbaweza, vous êtes le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1. Confirmez-vous la reprise des cours ce lundi à l'EPST dans votre juridiction?
Bonjour Monsieur Chris Mukande. J'ai au moins énuméré 4 points dans le communiqué que j'ai pris le vendredi 7 de ce mois. Le premier point concerne les bureaux gestionnaires et les écoles non détruites par la guerre. Cette catégorie peut reprendre les activités dès lundi 10 février normalement. Quant aux écoles qui sont touchées par la crise sécuritaire, j'ai instruit à ce que les comités des parents se réunissent en conseil de gestion avec les établissements de ces écoles-là pour évaluer tous les dégâts enregistrés et envisager des réparations urgentes. C'est pour dire que dans ces écoles, on ne peut pas directement espérer ouvrir les portes demain puisque il y a des mesures de réparation qu'on doit prendre à l'issue de la réunion du conseil de gestion pour réparer le mobilier cassé, pour rééquiper les salles de classe dont les mobiliers ont été utilisés comme bois de chauffe par les déplacés et enfouis leur camp ou leur site vers le centre urbain ou les périphéries de la ville. Et il faudra encore prendre du temps pour voir comment équiper ces écoles et ces classes. Il y a aussi des toitures qui ont été endommagées, qu'on doit chercher à réparer, ainsi de suite.
Vous interdisez l'application de la double vacation durant cette période dans les écoles. Pourquoi?
Il ne faut pas qu'on expose les enfants, puisqu'il y a toujours des pêcheurs à nos troubles. Il y a toujours des bandits qui peuvent profiter de la situation pour aussi commencer à kidnapper certains enfants et créer encore des ennuis. Nous ne souhaitons pas que les écoles organisent les séances de double vacation en ce moment-ci, puisque c'est un moment très critique. Et aussi, toutes les écoles doivent réglementer les heures de sortie, tout comme les heures d'arrivée aussi à l'école. Et les parents doivent aussi veiller sur le mouvement des enfants durant leur parcours de la maison à l'école, tout comme de l'école à la maison, pour vraiment mettre à l'abri tous les enfants qui vont devoir reprendre au fur et à mesure.
Et pour les écoles victimes de la destruction de la guerre, à quand la reprise effective des cours?
Comme par exemple l'école du cinquantenaire qui a été pillée de fond en comble, j'ai demandé à ce que la reprise se fasse à l'issue de moindres réparations qu'ils auront réalisées. D'abord commencer à rééquiper les salles. Je ne sais jusque quand et comment aussi, puisqu'il se pose d'ores et déjà les problèmes liés aux finances. Et vous savez, ce que nous avons perdu à l'école du cinquantenaire, ça peut carrément avoisiner même 500 000 dollars, puisque outre le mobilier, le manuel, la bibliothèque qu'on a saboté et qu'on sort, nous avons d'importants appareils qui ont été emportés, qu'il sera difficile de récupérer aujourd'hui ou demain. Alors, au moins, les travaux de réfection doivent poursuivre leur bonhomme de chemin. Et le moment venu, on va voir en quel moment les enfants vont reprendre. Puisque les enfants ne peuvent pas aller se mettre à même le sol, dans les salles de classe. Même les tableaux ont été enlevés. Alors, quels seront ces supports ou ces moyens didactiques-là que les enseignants vont utiliser? C'est purement impossible en ce moment-ci. Et ces écoles devront encore prendre du temps pour voir comment les personnes de bonne volonté, les ONG et pourquoi pas le gouvernement tous peuvent nous venir en aide pour, dans la mesure du possible, rééquiper ces écoles de manière progressive. Et je profite de votre micro pour rappeler aux gestionnaires leurs responsabilités premières, ainsi que les chefs d'établissement, mais également les enseignants et les parents, quant à la collaboration qui doit régner en ce moment crucial, et surtout à la discipline qui doit s'observer dans nos écoles et à l'accompagnement mutuel pour la seule cause et l'intérêt supérieur de nos enfants. Donc, nous osons espérer qu'avec Dieu, nous pouvons nous en sortir.
Monsieur le prophète, merci.
Merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à ma modeste personne pour ces quelques éléments que je viens d'apporter.
Fin de ce journal présenté par Noëlla Luzito Kabambi. La mise en onde est assurée par Pierre Diassinois, un journal coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilanda. Merci de nous avoir suivis et merci aussi de rester branchés sur le programme de Radio Okapi.